Et c'est l'heure du journal avec vous Aurélie Kiefer, bonsoir.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La charge de Donald Trump contre l'Iran devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain qualifie le régime iranien de dictature corrompue exploitant son peuple. Selon lui, les dirigeants iraniens sèment le chaos, la mort et la destruction. L'Aquarius va finalement accoster à Malte. Le Portugal, la France et l'Espagne se sont mis d'accord pour accueillir les derniers migrants secourus par le navire humanitaire, l'Aquarius en mer Méditerranée. Le budget de la sécurité sociale sera excédentaire en 2019. La bonne santé des comptes de la Sécu pousse le gouvernement à repenser les relations entre l'État et la sécurité sociale. Le comité national d'éthique est favorable à la PMA pour toutes et à l'autoconservation des ovocytes. Il prend aussi position sur les examens génétiques et la médecine génomique. Nous y reviendrons avec Tara Schlegel. L'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte par un discours bien pessimiste de son secrétaire général. L'ordre mondial est de plus en plus chaotique, les relations de pouvoir sont moins claires, les valeurs universelles s'érodent, selon Antonio Guterres. Il cite en exemple les principes démocratiques attaqués, l'état de droit sapé, l'impunité en développement, avant d'ajouter « plus le monde est connecté, plus les sociétés sont fragmentées ». Après lui, c'est le président américain Donald Trump qui a pris la parole et il a lancé un appel à la communauté internationale pour isoler le régime iranien, Grégory Phillips.
Oui, c'était attendu. Le discours du président américain a duré 35 minutes et une très large partie de son discours a été consacrée au dossier iranien et notamment au dossier nucléaire iranien. Et Donald Trump a été très offensif. Il faut que les autres pays isolent encore un peu plus le régime de Téhéran. C'est une dictature corrompue qui exporte le terrorisme à travers toute la région et nous devons renforcer les sanctions et les pressions économiques sur le régime iranien. On ne peut pas autoriser Téhéran à posséder l'arme nucléaire. On ne peut pas, martèle Donald Trump, qui demande donc à toutes les nations d'isoler encore un peu plus le régime et de soutenir le peuple iranien. Donc, discours très offensif du président américain. Pas de déclaration va-t-en guerre comme l'an passé à l'égard de la Corée du Nord. Vous vous souvenez que l'an passé, à la même tribune, Donald Trump avait promis de détruire complètement la Corée du Nord si Kim Jong-un, rebaptisé à l'époque Rocketman, s'entêtait dans son programme de développement nucléaire. Donc on n'est pas sur le même ton. Là, le discours est un peu plus policé, mais il est très ferme à l'égard de Téhéran. Et évidemment, on va guetter cet après-midi, tout à l'heure, la réponse du président iranien Hassan Rouhani, qui lui aussi s'exprimera à la tribune. Il n'est pas prévu de rencontre entre les deux hommes ici au bâtiment des Nations Unies.
Grégory Phillips en direct de l'Assemblée générale des Nations unies avec Clémence Bonfils à la technique. Le prix Nansen qui récompense les actes héroïques envers les réfugiés est attribué à un chirurgien sud-soudanais. Après 5 années de guerre civile, le Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde, compte près de 2 millions de déplacés internes, tandis que 2,5 millions d'habitants ont fui le pays selon le HCR. C'est dans le nord du pays, dans une zone sans infrastructure ni électricité, qu'Evans Attar Adaa a construit un hôpital à partir de rien et il y soigne sans relâche les plus démunis depuis 7 ans. Laure Broulard, vous avez rencontré le chirurgien.
Humble et direct, le docteur Attar raconte ses longues nuits de travail à l'hôpital de Mabane, où il est chirurgien en chef.
Il m'est arrivé de faire 6 césariennes en une nuit, avant que l'on ne m'amène un homme blessé par balle au torse. Et lorsque j'ai eu fini, j'ai dû m'occuper d'une occlusion intestinale.
Plus de 200 000 personnes bénéficient des soins de cet hôpital, majoritairement des réfugiés originaires du Soudan voisin. En 2011, Evan Attar opérait dans un local abandonné. Aujourd'hui, l'hôpital compte un service maternité et un service tuberculose, mais continue de manquer cruellement de matériel.
Nous devons souvent improviser, nous ne pouvons faire autrement. Nous n'avons pas d'appareil de radiographie, par exemple. Or, cet équipement est primordial pour les fractures et les blessures par balle.
Malgré cela, au fil des ans, l'hôpital du docteur Attar est devenu un havre de paix dans un pays ravagé par la guerre.
C'est un lieu neutre. Nous n'acceptons aucune violence au sein de l'hôpital. Nous traitons tout le monde, quelle que soit leur affiliation politique, leur religion ou leur groupe ethnique.
Alors que les combats continuent malgré l'accord de paix signé par le président Salva Kiir, l'opposant Riek Machar et les autres belligérants sud-soudanais le 12 septembre dernier, le Haut Commissariat aux réfugiés salue l'héroïsme du docteur Attar qui dédie sa vie aux victimes.
Les 58 migrants à bord de l'Aquarius débarqueront finalement à Malte et un accord a été trouvé entre le Portugal, la France et l'Espagne pour prendre en charge les exilés secourus par le navire humanitaire. Les ONG Amnesty, Médecins du Monde, le Secours catholique et la CIMAD demandaient l'ouverture des ports français. SOS Méditerranée et Médecins du Monde espéraient que l'Aquarius pourrait accoster à Marseille, mais le gouvernement français a refusé de faire une exception, Marie-Pierre Véraud.
Et oui, pas question en effet pour Paris de créer un précédent en permettant le débarquement des passagers de l'Aquarius sur le sol français. Ce n'est pas une question de nombre. Nous parlons ici de 58 migrants, vous le disiez, hommes, femmes et enfants, mais bien de symboles. La France redoute d'ouvrir une brèche qui serait exploitée par l'extrême droite à quelques mois des européennes. Le Rassemblement national n'a d'ailleurs pas tardé à monter au créneau dès hier. Les signaux envoyés par l'Élysée et le gouvernement sont toujours clairs. La solution recherchée pour l'Aquarius, cette fois-ci comme pour les précédents débarquements de l'été, devait être européenne et respecter le droit international. Le navire devait accoster dans le port sûr le plus proche. Ce sera donc le cas, puisque la géographie imposait Malte et non Marseille. En échange, la France s'engageait à organiser la répartition solidaire des migrants, ce qui est une fois de plus le cas, le Portugal en accueillant pour sa part une dizaine. Comme cet été, Paris a réussi à convaincre les autorités maltaises, mais aucune solution européenne d'accueil pérenne ne se profile. C'est toujours au cas par cas et toujours dans l'urgence. La prise en otage politique de la question des migrants n'aide pas à trouver une solution apaisée, une solution humaine, disent les ONG. Les armateurs de l'Aquarius font ainsi valoir que l'Europe redoute de perdre son identité. Mais celle-ci, disent les ONG, n'est pas menacée par une invasion largement fantasmée, mais bien par cette atteinte aux valeurs qui forment le socle de l'Union européenne, celle de solidarité et d'accueil que l'Aquarius estime défendre.
Marie-Pierre Véraud. L'Église catholique allemande demande pardon aux victimes d'agressions sexuelles commises en son sein. Selon un rapport qu'elle a commandé, plus de 3600 abus sexuels ont été commis par des hommes de l'Église catholique allemande de 1946 à 2014. Et ce ne serait que la partie émergée de l'iceberg. À Fulda, dans le centre de l'Allemagne, le récit de notre correspondant Ludovic Piétenu.
Encore un pardon de plus. L'Église catholique n'en est pas à son premier sur la question des abus sexuels. Depuis 8 ans, elle présente régulièrement des excuses aux victimes. Mais ce dernier rapport accablant oblige aujourd'hui la plus haute autorité catholique du pays à en faire davantage. Le cardinal Reinhard Marx.
Je le dis très clairement, l'abus sexuel est un crime. Ceux qui sont coupables doivent être punis. Depuis trop longtemps, l'abus a été dénié et étouffé au sein de l'Église. Nous n'avons pas écouté les victimes. Tout cela ne doit pas rester sans conséquences. Les victimes ont droit à la justice.
Justice et indemnisation sont promises, ainsi qu'une réflexion sur l'organisation de l'Église allemande. Sauf que pour l'heure, aucune action concrète n'est prise, excepté une ligne téléphonique de soutien aux victimes ouverte depuis la fin de la matinée. Le cardinal allemand a renvoyé au mois de février et à la réunion de tous les présidents de conférences épiscopales convoquées par le pape François au Vatican.
C'est une première depuis 18 ans. Le budget 2019 de la Sécurité sociale est en excédent. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé ce matin un solde excédentaire d'environ 800 millions d'euros. Pour autant, il va falloir continuer de faire des économies. Les hôpitaux et les industries du médicament sont mises à contribution à hauteur de 3,8 milliards d'euros. La Sécu est en bonne santé, Anne-Laure Chouan, mais il faut continuer de la soigner.
C'est un peu cela. En effet, le trou de la Sécu non seulement se comble, mais il devrait être excédentaire dans les années à venir. Une bonne santé, essentiellement due à une augmentation des recettes, la croissance et les créations d'emplois ont permis que, malgré des remboursements d'assurance maladie plus nombreux que prévu, les comptes sociaux se rétablissent. Mais c'est un rétablissement qu'il faut consolider, estime le gouvernement, et c'est la raison pour laquelle le régime d'économie de la Sécurité sociale pour 2019 sera peu ou prou le même que l'année précédente. Mais surtout, sans ces nouvelles mesures d'économie, le déficit de la Sécu pourrait bien replonger, et cela à cause du gouvernement lui-même, ou plutôt des mesures qu'il a prises et qui vont avoir des conséquences directes sur le budget de la Sécu. Par exemple, l'exonération promise des cotisations sociales pour les heures supplémentaires. Eh bien, c'est un manque à gagner de 2 milliards d'euros pour les comptes de la Sécurité sociale. Normalement, ce manque à gagner doit être compensé par l'État, mais en 2019, ce ne sera pas le cas. Et d'ailleurs, le gouvernement profite de ce PLFSS 2019 pour l'annoncer les transferts que l'État doit traditionnellement à la Sécurité sociale à chaque mesure d'exonération, ces transferts vont baisser progressivement. Que l'État ne compense pas la Sécu sur certaines exonérations, ça n'est pas une première. C'est la première fois, en revanche, qu'un gouvernement l'anticipe aussi clairement. D'ailleurs, un rapport sur le sujet de la rénovation des relations entre l'État et la Sécurité sociale va être discuté très prochainement. Une façon euphémisée de dire que l'État pourrait bien décider, une fois pour toutes, de se servir des excédents de la Sécu comme d'une tirelire, ce qui commence à faire grincer des dents.
Anne-Laure Chouin, et d'ailleurs pour les spécialistes de la fiscalité, on va de plus en plus vers une fusion des budgets de l'État et de la Sécurité sociale. Écoutez l'analyse de Thierry Lambert, directeur du Centre d'études fiscales de la faculté d'Aix-en-Provence.
Le fond de l'affaire, c'est quand même la fusion entre le budget général de l'État et la loi de finances relative au financement des dépenses sociales. C'est ça le fond de l'affaire. On voit partout dans la littérature tout ce qui tourne autour des finances publiques, on voit quand même beaucoup de réflexions, de propositions, de choses qui vont dans ce sens. Et il y a un vrai débat entre ceux qui considèrent qu'on doit garder le système actuel, ce qui ne veut pas dire qu'on doit le garder en l'état, mais qu'on doit au moins le perfectionner, et ceux qui considèrent qu'on doit fusionner. Rien en droit nous y oblige, mais tout nous y amène au regard des dispositions communautaires. La logique des traités, c'est quand même la fusion. Certains y sont depuis très longtemps, la Norvège, le Danemark, le nord de l'Europe, de façon générale, les gens ne payent pas des cotisations sociales, les gens ils payent des impôts. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fiscalisation du prélèvement. Et nous, on fait bien la distinction entre les uns et les autres. Il y a un aspect très technique, mais il y a surtout un enjeu politique. Soit vous unifiez et vous en remettez à la discussion entre le gouvernement et le Parlement sur la totalité des finances publiques, ça c'est une option, soit vous ne l'acceptez pas en disant finalement il faut aussi que les partenaires sociaux puissent décider d'un certain nombre de choses, alors vous ne fusionnez pas. Donc ça dépend vraiment du rôle que vous souhaitez faire jouer aux partenaires sociaux. Si vous dites les partenaires sociaux ça sert à rien, c'est inutile, ils alourdissent la procédure, etc., incontestablement il faut fusionner. Si vous dites, ah oui, mais quand même, les partenaires sociaux, ça joue un rôle et ça fait partie du dialogue démocratique, etc., vous ne pouvez pas fusionner. C'est vraiment un enjeu politique.
Thierry Lambert, interrogé par Marie Viennot. Parcoursup a rempli sa mission et on fera mieux l'année prochaine. Voilà en substance ce qu'a expliqué la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, en faisant le bilan de la mise en place de la nouvelle plateforme d'admission post-bac. À l'issue de la procédure qui s'est achevée vendredi dernier, 955 bacheliers n'ont pas obtenu d'affectation dans le supérieur. Ils sont maintenant accompagnés par les commissions rectorales qui doivent leur faire une proposition d'admission au plus près de leurs vœux. Pour l'an prochain, la ministre promet des améliorations. Le calendrier va être resserré. La première phase de Parcoursup devrait s'achever fin juillet plutôt qu'en septembre. Et Frédérique Vidal prévoit une anonymisation des dossiers à Kim Kasmi.
Si Frédérique Vidal s'est voulu résolument optimiste sur le bilan de Parcoursup, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche prévoit tout de même des évolutions, à commencer par la fin de la première phase d'admission, qui s'achèvera désormais fin juillet, mais aussi par l'anonymat des candidatures pour éviter la discrimination des lycéens venant de banlieue. Frédérique Vidal.
J'ai rencontré des jeunes à cette rentrée qui m'ont dit très sincèrement « si j'avais dû hiérarchiser, jamais j'aurais osé demander ça ». Finalement, j'ai demandé parce que c'était pas hiérarchisé. J'ai eu ce que je voulais, mais je dois être super chanceux parce que quand même, j'ai un nom compliqué à porter, j'ai une adresse compliquée. Il n'y a pas ce type de discrimination au sein des universités, mais si ça les aide pour prendre confiance, qu'on aille jusqu'à l'anonymisation, eh bien, on va y travailler.
En revanche, la ministre indiquait qu'il n'était pas question de remettre en place la hiérarchisation des vœux, ce que regrette Hervé Christoffel, secrétaire général du SNESUP.
Alors que vous êtes un lycéen, comme moyen, pas forcément une tête de classe, vous faites vos 10 vœux et on vous dit, il va falloir que vous patientez, que des candidats mieux classés que vous se désistent pour que vous espériez avoir une place dans une des filières que vous avez choisie.
Frédérique Vidal, qui souhaite également favoriser la mobilité des étudiants avec la création d'un fonds d'ici l'automne, tout comme la création de filières courtes professionnalisantes dans le supérieur pour mieux répondre à l'offre et à la demande dans le monde du travail.
Hakim Kasmi, l'impossibilité d'avoir un enfant est une souffrance qui doit être prise en compte, même si les raisons ne sont pas biologiques, estime le Comité consultatif national d'éthique. Le CCNE réaffirme son soutien à l'extension l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Pour la même raison, il se dit favorable à l'autoconservation des ovocytes, Tara Schlegel, même si cette démarche pose un certain nombre de questions.
Oui, le comité d'éthique a changé d'avis sur cette technique. Il y a eu débat interne. Cette possibilité de choisir quand enfanter, ce qui implique de congeler ses ovocytes, pose effectivement, vous l'avez dit, question. Sophie Crozier est neurologue.
Des employeurs pourraient, par exemple, pousser des femmes à ne pas avoir de grossesse dans certaines périodes de vie, au début de leur... Donc bien sûr que oui, il y a des dérives possibles, il y a des pressions sociétales qui peuvent se faire, et ensuite ça va comporter des risques, parce que les grossesses chez des femmes plus âgées, il faut quand même le dire, les techniques de procréation marchent moins bien quand on est plus âgé, il y a parfois plus de risques de mener sa grossesse à terme, dans des bonnes conditions, y compris pour la naissance de l'enfant.
Et puis il y a une question financière qui n'a pas été éludée, il s'agit de savoir si l'assurance maladie remboursera ces interventions, ajoute Sophie Crozier. Offrir ce choix aux femmes n'est pas neutre.
Ouvrir un droit à l'accès à ces techniques aujourd'hui sans avoir pensé la prise en charge, parce que si on ouvre, alors oui bien sûr, moi ça me semble en termes d'égalité et d'accès aux soins, il faudrait que ça soit pris en charge. Il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas, sinon ça serait très inégalitaire. Et dans ce cas, que va-t-on faire? Et les centres aujourd'hui sont déjà, il y a une liste d'attente, etc. Enfin, il faut savoir dans quel contexte. Enfin, on en a beaucoup parlé aussi de la prise en charge en fait par la société de ces techniques pour des demandes individuelles en réalité aussi. Donc voilà, c'est toujours cette tension entre l'individu et le collectif qu'on a retrouvé évidemment sur tous les sujets, hein, c'est majeur.
Et nous verrons si le gouvernement qui doit réviser la loi en 2019 suivra le comité d'éthique sur les ovocytes.
Comité qui reste en revanche opposé à la gestation pour autrui. Mais ces débats qui font grand bruit autour de la procréation ne doivent pas faire oublier d'autres questions éthiques fondamentales sur lesquelles se penche aussi le CCNE, rappelle l'un de ses membres, Pierre Delmas-Goyon, et conseiller honoraire près la Cour de cassation.
Ce qui est simple, à la fois pour les journalistes et pour le grand public, c'est que les débats de société sont immédiatement accessibles. On sait de quoi on parle. Après, on prend position. Voilà, mais on sait de quoi on parle. Si on commence à vous parler des aneuploïdies, des cellules pluripotentes, déjà, ça peut poser problème. Voilà. Pour autant, c'est quand même fondamental. Quand on vous dit que, à l'heure actuelle, on est capable, effectivement, d'aller faire des chimères, c'est-à-dire de prendre des cellules humaines, pour aller travailler sur un animal, sur un porc par exemple, parce qu'il s'y prête assez bien, pour fabriquer des organes qu'on pourrait réimplanter chez l'homme, vous trouvez que ça pose pas de problème, vous? Je sais pas, moi, imaginons que vous ayez un organe déficient, j'imagine n'importe quoi, que votre vie soit en danger, si on n'aurait pu vous sauver comme ça. La limite, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est si simple?
Mais on implante déjà, par exemple, je crois, des valves de porc dans le corps humain, donc oui, on ne crée pas une chimère.
Alors, pas forcément la même chose. Là, vous développez un tissu vivant, vous fabriquez une chimère, vraiment, c'est pas la même chose. Et quand on vous parle des cellules iPS, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est impressionnant. Les cellules souches embryonnaires, tout le monde c'est en gros ce que c'est. Vous vous dites, tiens, c'est au tout début, puis après ça va se différencier, il y aura des cellules de ci, des cellules de ça, ça on comprend. Les cellules iPS sont maintenant des cellules adultes dont on va pouvoir très très grossièrement enlever la spécificité pour les reprogrammer autrement. Imaginez qu'à un moment donné, vous voyez, hop, je vais prendre votre cellule épithéliale et je vais en faire autre chose.
C'est laquelle, la cellule épithéliale?
La peau. De la peau. Imaginez qu'on vous en fasse une cellule germinale. Et puis dans 3 mois, je vous envoie une lettre en vous disant que vous avez un parfait embryon bébé éprouvette qui est votre enfant, qui est en train de se développer. Non mais c'est de la science-fiction, mais honnêtement, je vous assure, il y a des sujets qui sont très très importants.
Pierre Delmas-Goyon, membre du Comité consultatif national d'éthique, au micro de Tara Schlegel. Le célèbre et sulfureux tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde, a enfin un visage et un nom. Après 152 ans de secret, l'identité du modèle a été découverte fortuitement par Claude Chope, écrivain spécialiste de Dumas, père et fils. Bonsoir Bénédicte Robin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
C'est justement en étudiant la correspondance entre Dumas fils et George Sand que Claude Chope a découvert le nom du modèle de L'origine du monde. Elle s'appelait Constance Quéniaud.
Oui, c'est le beau hasard des découvertes. Sans chercher, vous trouvez. C'est ce qui est arrivé donc à Claude Chope, en train d'annoter une lettre de Dumas fils à George Sand. Le voilà qui tombe sur un passage dans lequel l'auteur vitupère très fort contre le peintre. Nous sommes en 1871. Courbet est engagé pour la commune. Dumas fils y est hostile et se lâche contre l'artiste. Et ce tableau, ce nu, tenu secret, connu de quelques-uns seulement, dont Dumas fils, qui est lui-même amateur d'art, côtoie le commanditaire et propriétaire de l'œuvre, Khalil Bey, diplomate turc et collectionneur, qui a pour maîtresse une certaine Constance Quéniaud, dont le nom apparaît justement dans cette verve mécontente et au détour d'une phrase intrigante, car il s'est glissé une coquille.
Khalil Bey visitait de temps en temps l'interview de Mademoiselle Queniaud, puisque son nom, c'est Mademoiselle Queniaud. Je me suis dit, mais ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Et c'est à ce moment-là que je suis retourné au texte original, et donc Quolibet visitait de temps en temps l'intérieur de Mademoiselle Queniaud. On comprend très bien ce que cela veut dire, surtout qu'intérieur était souligné pour montrer à Georges Sand que c'était un jeu de mots, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, la découverte était faite, mais il restait le travail.
Et travail pour savoir qui se cache donc derrière ce visage de l'origine du monde, une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris, devenue porte-veine, à savoir porte-bonheur du fameux Quolibet, un joueur invétéré. Elle s'ouvre les portes du Paris mondain et influent, son nom est connu à l'époque, et c'est sans doute pour cela qu'il n'a pas besoin d'être prononcé. On retrouvera après sa mort parmi ses biens un tableau de Gustave Courbet.
Le livre « L'origine du monde, vie du modèle » de Claude Chope sortira le 4 octobre aux éditions Phébus. Et puis une bande dessinée de Bastien Vivès a été retirée des ventes par les magasins Cultura et Gibert Joseph. Petit Paul, le BD publié dans une nouvelle collection érotique lancée par Glénat, est en effet accusé de pédopornographie. Le temps restera très largement ensoleillé demain mercredi, de température bien fraîche demain matin au nord, 1 à 6 degrés, 6 à 19 dans la moitié sud. Les maximales seront en légère hausse, 18 à 23 au nord de la Loire, 24 à 29 au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.